En ce moment, l'esprit de Noël est un peu partout, dans les villes et dans les campagnes. Alors on voit des crèches dans le guichet d'une gare, des crèches évoquant donc la naissance de Jésus au rond-point des villages. On entend « Il est né, le divin enfant » comme musique d'ambiance dans les supermarchés. Et cette ambiance magique de Noël va conduire bien des personnes habituellement non pratiquantes à aller, pour une fois, au culte de Noël, ou bien penser à Dieu. Et c'est une chance pour eux, car un miracle peut se produire sur ce chemin. Comme dans cette histoire racontée dans l'Évangile, où des personnes sont guéries alors qu'elles étaient en chemin pour accomplir un rite religieux. Alors je vous propose de nous demander à partir de ce texte ce que Jésus pensait de la pratique des actes religieux. Alors c'est dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 17, les versets 11 à 21. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait au milieu de la Samarie et de la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». En les voyant, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les dix n'ont-ils pas été purifiés ? Mais les neuf autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, Jésus leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas « Voyez, il est ici » ou « Il est là ». Car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous, au milieu de vous. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter, pour laisser résonner ces textes en nous-mêmes, et bien de chanter le Cantique de Marie, numéro donc 88 dans notre petit recueil Louanges et prières, le Magnificat. Alors je propose les strophes 1, 2 et 3, les trois premières strophes du Cantique de Marie. Éternel notre Dieu, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous unir à ta volonté bonne. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne, mais au contraire unis en nous tout ce qui est bon avec ta parole. Et fais que nous puissions, grâce à ton Esprit Saint, trouver ta parole dans la méditation de ces Écritures anciennes. Fais que cette parole que tu as pour chacune et chacun d'entre nous puisse vraiment être entendue, reçue, vécue, aimée. Contre toute attente, Jésus invite les dix lépreux à accomplir un acte religieux. C'est pourtant pas tellement le genre de Jésus. Ces dix hommes sont unis par une commune détresse, viennent vers lui et l'appellent à l'aide. Jésus ne fait pas un peu de boue avec de la salive et de la poussière du sol, comme d'autres fois. Il n'impose pas les mains, il ne bénit pas les lépreux, il ne leur parle pas du pardon de Dieu, comme il le fait souvent, ce qui pourrait leur faire prendre conscience de leur dignité, bien qu'ils sont malades. Jésus ne leur dit qu'une seule chose, d'aller se montrer au sacrificateur. Il leur dit d'aller accomplir un de ces actes de pure religion religieuse dont le livre du Lévitique est friand. Nous avons fait le pari, mon collègue et moi-même, d'arriver à prêcher un jour sur le Lévitique. C'est pas donné, j'ai même pas osé vous lire le texte dont parle ici Jésus, parce que c'est un texte avec des poulets, des moutons sacrifiés, avec de multiples aspersions, un peu d'huile à gauche, un peu de sang mélangé à de l'eau, avec de la poudre d'insectes écrasée et puis de l'hysope, le tout prenant 8 bons jours et certainement pas mal d'argent pour le pauvre appelé à pratiquer ce rite. Alors c'est surréaliste que Jésus envoie accomplir ses actes religieux quand on connaît par ailleurs la façon d'être de Jésus. Il a été très critiqué et même exécuté finalement de ne pas bien respecter le sabbat qui est un des commandements majeurs bien sûr de la religion juive. Jésus les envoie pourtant accomplir un rite religieux et ça marche. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. Il y a donc là, la purification se déclenche au milieu de leur cheminement, nous dit le texte. Alors est-ce que Jésus soutiendrait l'importance essentielle des rites religieux? Alors c'est un peu plus fin et compliqué que cela, et il n'est pas possible de répondre par un simple oui et non, car la religion est complexe et déclinée tout au cours de ce texte. La religion ne se limite pas aux rites dans le temple. Et puis en plus, les lépreux ne sont pas guéris par le rite dans le temple, Ils sont guéris avant même le rite, dans le cheminement pour aller vers le rite. Et puis ensuite, l'histoire continue après cela, en particulier avec cet homme qui, parmi les 10, bon, est guéri, mais ne va même pas jusqu'au sacrificateur, retourne vers Jésus et connaît alors un autre cheminement. Et c'est à lui qu'il est annoncé le salut. Un salut peut-être que n'ont pas reçu les 9 autres qui sont restés bien sagement à accomplir le rite que Jésus leur avait dit de faire. Rite qui permettait aux lépreux guéris de réintégrer la société. Alors reprenons au début la marche de ces 10 lépreux. La démarche de ces hommes évoque déjà un des très intéressants, je crois, bénéfices de la religion. Ils se sont rassemblés, liés par une même condition, par une même recherche, malgré leurs différences normalement insurmontables, les Juifs et les Samaritains ne se fréquentant pas. Et puis ils vont vers Jésus qu'ils appellent maître. Ce terme d'épistatès est toujours dans l'Évangile le titre qu'emploie un disciple, un apôtre, un proche disciple pour s'adresser à son maître, pour lui demander des conseils ou pour lui demander de l'aide. Il y a de l'humilité finalement dans cette relation, il y a de la confiance, il y a de la subordination finalement. Et effectivement, les 10 hommes, déjà le chiffre 10 évoque l'idée d'une action, d'une charte, vont faire sans hésiter ce que Jésus leur propose de faire, aussi surprenant soit-il, de les envoyer aller faire ce rite avec les poulets et tout ça. Nous avons ici, je crois, une dimension intéressante de la religion. Comme ces 10 hommes, nous sommes réunis ce matin dans une commune recherche, une espérance, une certaine confiance dans un maître que nous avons choisi. Et la religion a cette capacité fort rare, je crois, de rassembler des personnes qui sont normalement étrangères les unes aux autres, de milieux sociaux différents. C'est très rare qu'un patron fasse une activité commune avec son employé le moins élevé, avec un chômeur, avec quelqu'un qui est dans la rue, avec un enfant. Personne normalement qui ne se croisent pas, d'origines différentes, de cultures différentes, des protestants depuis toujours, des catholiques, des personnes qui viennent d'autres milieux chrétiens, ou du bouddhisme, de l'islam ou de l'athéisme. La religion crée du lien entre nous, un lien fort par cette démarche et cette confiance commune. C'est la démarche qui nous unit finalement, et c'est très précieux. Car dans n'importe quelle société humaine, il peut arriver très vite d'être comme un lépreux dans la société antique, c'est-à-dire le vilain petit canard de la fable, isolé dans sa propre famille, dans son travail, ou parce que sans travail, ou dans l'anonymat des grandes villes, ou dans le désert des campagnes, ou loin de son pays, ou isolé par la dépression, ou que sais-je, de tant de façons d'être le lépreux de l'histoire. Eh bien, la religion crée du lien social. Elle nous apprend que non, nous ne sommes pas pestiférés aux yeux de Dieu. Alors c'est cela que gagneront les 9, qui resteront sagement à accomplir le rite. Ils seront réintégrés, et c'est déjà immense. Et puis il est bon d'avoir choisi d'être disciple d'un maître comme Jésus. Franchement, il y a pire que cette incroyablement belle et puissante théologie d'un Dieu qui aime jusqu'à ses ennemis. Sa philosophie de Jésus, c'est celle de l'infinie dignité de chaque personne et de chaque journée de notre existence. Et puis son invitation à vivre de la grâce et de la gratitude. Son éthique de la responsabilité, du service de l'autre et 1000 autres choses qui méritent effectivement que Jésus soit le maître et que nous soyons son disciple. Alors les 10 lépreux, ils ont bien saisi, je crois, la philosophie du Christ quand il s'adresse à lui au nom de la seule compassion. C'est-à-dire, ils ont saisi que l'essentiel, c'est la grâce. Parce que la lèpre était considérée à l'époque comme une punition pour leur péché. Ils se sentent coupables, ils se sentent indignes, ils n'ont rien à offrir, mais ils peuvent demander quand même, puisque Jésus incarne le pardon, le service de l'autre, sans condition. Alors, en conjuguant la force du rassemblement de personnes diverses et celle d'un maître franchement excellent, Jésus, nous avons dans le christianisme, je crois, une religion qui peut vraiment mettre en route d'une belle façon. Mais Jésus les envoie au rite. Il y a donc quelque chose qui manque à ce que je viens de dire pour parler de la religion. Alors qu'est-ce que rajoute le rite ? C'est la dimension de la transcendance, du mystère, pourrait-on dire. La religion ne se résume pas à créer du lien social et à nous permettre d'élever notre philosophie et notre éthique. L'évangile, nous l'avons entendu dans le texte lu ce matin, c'est d'abord la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui s'approche, qui est là même, qui est au milieu de nous et au-dedans de nous, nous dit Jésus-Christ ici. Alors c'est vrai qu'on peut tirer une leçon de vie de cet épisode de la vie de Jésus, par exemple, avec l'importance de la justification gratuite, du pardon, l'importance de la gratitude aussi, l'importance d'une parole extérieure qui vient restaurer le sentiment que nous pouvons avoir ou perdre de notre dignité, et puis de cette compréhension que nous faisons partie de la communauté humaine. Mais une religion, c'est plus qu'un lien social et qu'un idéal, même un idéal magnifique et infini. Une religion, c'est une ouverture, une espérance vers une transcendance, une dimension d'un autre ordre, finalement, qui dépasse la philosophie, la réflexion, le lien social, la solidarité. Et c'est ce à quoi fait place le rite. Et c'est ce dont ont besoin, ce jour-là, ces 10 lépreux qui sont des disciples, donc bien sages. Mais c'est là que l'histoire racontée est très fine, car ce n'est pas le rite qui va guérir les 10 lépreux, puisque c'est en chemin vers le rite qu'ils sont purifiés, qu'ils sont guéris. Alors, ce qui leur arrive est effectivement au-delà de la prise de conscience, au-delà de la philosophie ou du sentiment de leur propre dignité. Le texte nous dit « il arriva qu'ils furent purifiés ». Ça semble banal, mais le « il arriva », si vous voulez, « egeneto » sous-entend dans la Bible une action créatrice de Dieu qui injecte du neuf, de l'inattendu dans ce qui est normalement une chaîne de causes et de conséquences bien prévisibles. Et puis le passif de ce « ils furent purifiés », ce passif lui aussi, dans le contexte de la Bible, désigne Dieu comme l'acteur invisible de cette transformation qui arrive tandis qu'ils allaient, tandis qu'ils étaient en chemin, tandis qu'ils allaient se faire examiner par les sacrificateurs. Et donc l'important n'est pas le rite en lui-même, ni les sacrificateurs, mais il est dans le chemin vers le rite finalement. D'ailleurs, quand l'un des 10 fait demi-tour au milieu sans aller jusqu'au prêtre, Jésus ne le renverra pas accomplir plus tard le rite de réintégration dans la société auprès des sacrificateurs. Ce n'est plus la peine, finalement. S'il veut, peut-être, mais c'est plus l'essentiel. Parce que le chemin vers le rite est déjà une ouverture à cette transcendance. Le chemin en métro que vous avez fait pour venir ici, peut-être, est déjà une ouverture, creuse déjà quelque chose qui est de l'ordre d'une espérance de cette transcendance, de ce quelque chose de plus que vous n'auriez pas simplement en bouquinant de la théologie. D'ailleurs, le rite aussi peut être une ouverture à la transcendance. Si le métro n'a pas suffi, eh bien, vous avez bien fait de rester quand même ici, je crois, parce que le rite aussi, si vous voulez, continue à être une ouverture à la transcendance. Une ouverture qui intègre l'intelligence, mais qui s'inscrit aussi dans un mouvement du corps, dans le rassemblement des autres personnes, qui s'inscrit dans du temps et des moyens consacrés à ça. Et nous ne sommes pas de purs intellects. Nous sommes un être aussi de chair et de sang, un être social, et tout cela participe à l'ouverture, si vous voulez, de notre vie tout entière, à cette transcendance, à cette dynamique créatrice de Dieu. Alors la guérison des 10 lépreux sur le chemin permet à ce texte de dire à la fois l'intérêt finalement du rite religieux pour nous, mais en même temps de remettre le rite à sa place. Ce serait de la folie de penser une seconde que le rite est une action magique sur Dieu et convaincrait Dieu de nous apporter sa bénédiction ou sa grâce. C'est pour nous que le rite est utile, comme le dit Jésus, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. la religion, ou plutôt, je crois, toute bonne religion, quelle qu'elle soit, ne doit pas se prétendre être un but en soi, mais plutôt un exercice au service de la personne humaine et de l'humanité. Une ouverture à cette transcendance de Dieu. Alors l'important, c'est le chemin vers le rite, image d'un cheminement intérieur qui s'ouvre à l'action de Dieu en nous et dans notre monde. Et les 10 lépreux seront donc purifiés. Ce texte ne nous dit pas qu'il vaut mieux aller faire un rite religieux plutôt que de prendre des antibiotiques pendant quelques mois pour guérir la lèpre. Ce n'est pas de cela dont parle le texte, mais il parle de l'ouverture de notre être dans toutes ses dimensions, à la puissance créatrice de Dieu, à son règne en nous et dans notre monde. Mais il pourrait sembler qu'à ce moment-là, du texte, eh bien ça y est, c'est gagné, il y a cette purification, il y a cet acte de Dieu en nous, eh bien non. Il reste encore 2 étapes dans le cheminement proposé par ce texte, et c'est pourquoi la religion dépasse encore le rite. La religion n'est pas simplement une philosophie, elle n'est pas seulement une recherche communautaire, elle n'est pas simplement non plus une ouverture à l'action de Dieu dans notre monde, dans notre vie, dans notre être. La religion est tout cela. Mais elle est aussi rendre gloire à Dieu, comme on le voit dans la suite du texte. Alors quelle importance? À quoi ça sert, a-t-on envie de poser comme question avec notre mentalité très pragmatique? À quoi ça sert de rendre gloire à Dieu? Alors d'abord, c'est sympa, c'est justice. Mais c'est plus que ça, si vous voulez. La gratitude nous permet de vivre quelque chose d'essentiel, je crois, et de très bienfaisant pour nous. La louange, par exemple, est un exercice d'initiation et parfois de rééducation à vivre dans la gratuité. Puisque nous avons déjà reçu ce que Dieu nous donne, la louange ne sert plus à rien, finalement. Eh bien oui, c'est gratuit. La gratitude nous permet de vivre cela. Par exemple, le propre de l'Évangile, c'est d'annoncer le pardon gratuit de Dieu, et c'est très libérant, effectivement. Nous sommes regardés par Dieu comme dignes de vivre et d'appeler son enfant bien-aimé. C'est tout cela, finalement, le cadeau qui est offert à Noël ou dans l'Évangile, à chaque page de l'Évangile. Par la gratitude, nous pouvons à notre tour donner quelque chose de gratuitement, finalement. Ce n'est pas pour payer a posteriori ce que Dieu nous a donné, mais il nous l'a donné de bon cœur, donc nous ne lui devons rien, finalement. Il s'est fait son propre plaisir en nous bénissant, en nous donnant la vie. Mais en rendant grâce à Dieu, finalement, ça permet de connaître nous-mêmes cette joie, eh bien, de donner gratuitement. Ça commence comme ça, je crois. Alors les 9 lépreux continuent probablement là où leur maître Jésus leur a dit d'aller, et qu'il aura d'ailleurs plutôt réussi jusque-là, puisqu'ils sont purifiés en chemin. Ils en ont pour 8 bons jours, de rites avec les poulets et tout, comme je vous disais, pour rendre gloire à Dieu d'avoir été guéri et puis pour se réjouir aussi du bonheur d'être disciple d'un si bon maître qui connaît les moyens de s'ouvrir à la puissance de Dieu, de résurrection, de guérison qu'est Dieu. Le 10e lépreux, il cumule le fait d'être infréquentable comme lépreux, traité comme contagieux physiquement et moralement, mais en plus, il est infréquentable comme samaritain. Il y en a qui cumulent les malchances. Alors cet homme se rend compte qu'il y a en Jésus plus qu'un sage, plus qu'un théologien, qu'il y a un croyant et un philosophe. Mais c'est même plus que ça. Il va à ses pieds rendre gloire à Dieu. Le texte dit même qu'il rend grâce à Jésus. Et ce verbe « eucharistein » est très fort, parce que ça sert ordinairement, ça ne sert que à dire « rendre grâce à Dieu lui-même ». Et donc, on voit que ce 10e homme, finalement, voit en Jésus plus qu'un sacrificateur. Il voit en Jésus l'Emmanuel, c'est-à-dire le Dieu parmi nous. Il voit le salut de l'Éternel, ce qui traduit le nom même de Jésus. Et donc, le demi-tour de ce 10e homme pour rendre gloire à Dieu, non pas au temple, dans le rite, mais au pied de Jésus. C'est une conversion de sa relation à Jésus, non plus comme un maître, mais comme Christ. incarnant le salut de Dieu, la venue du royaume de Dieu, ici et maintenant, dans ce monde de poussière. Et c'est la bonne nouvelle que nous célébrons à Noël, celle de l'incarnation, du salut de Dieu, de son royaume en nous, au milieu de nous, en Jésus-Christ. C'est ce demi-tour, comme le fait remarquer Jésus, qui fait vraiment place à la gloire de Dieu dans notre vie, c'est-à-dire en laissant place à l'action de Dieu dans notre vie, en reconnaissant le salut de Dieu là où il est, sans s'arrêter au rite. Alors le Samaritain, il est appelé par Jésus un étranger. Ce terme d'allogénès est unique dans toute la Bible. Mais ce terme était très connu des contemporains de Jésus, car il était sur une inscription écrite en lettres énormes à l'entrée du temple de Jérusalem pour interdire aux étrangers l'accès au parvis du temple. D'ailleurs, cette pierre gravée est conservée au musée d'Istanbul, on l'a retrouvée je ne sais comment. Jésus attire notre attention sur le fait que la religion étant une ouverture à Dieu, qui par définition donc est le Dieu de tous puisqu'il y a un seul Dieu, toute religion qui interdit à certaines personnes de rendre gloire à Dieu n'est plus une maison de prière pour tous les peuples, comme l'Éternel le dit à Ésaïe, nous le demande, mais devient une caverne de voleurs, comme le dit Jésus au temple, volant la louange des hommes, volant à Dieu lui-même sa propre place. Et donc Dieu n'est pas dans le temple de Jérusalem, le temple n'est qu'un outil pour nous appeler à l'ouverture à Dieu et à la prière. Alors mieux vaut donc rendre gloire face contre terre au pied du Christ ? Eh bien non, là aussi ce n'est qu'une étape, celle qui nous permet d'entrer dans une relation vraiment personnelle avec Dieu, au-delà du rite, au-delà du groupe, au-delà des bougies et des croix. Jésus ne veut pas non plus, finalement, voler à Dieu sa place. Il dit à l'homme qui s'est jeté à ses pieds, « Non, non, lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » C'est-à-dire que le véritable lieu où rendre gloire à Dieu, est-ce que c'est dans le rite religieux ? Ce n'était que pour un instant, finalement, comme une ouverture. Est-ce que le véritable lieu où rendre gloire à Dieu est au pied du Christ dans l'adoration ? Ben non plus, c'est là aussi que le temps d'une prière de louange, d'adoration, de gratitude et de foi, mais le véritable lieu, selon Jésus, pour rendre gloire à Dieu, le véritable lieu de la religion qui se poursuit donc, c'est ensuite dans une troisième étape finalement, en vivant notre vie librement. Le royaume de Dieu n'est ni au temple, ni au pied de Jésus, le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Il est en nous, au milieu de nos relations entre nous. Et Jésus insiste, ce n'est pas Dieu qui te ressuscite, ce n'est pas moi qui t'ai ressuscité, c'est toi-même qui t'es déjà mis debout. C'est ta foi à toi qui t'a sauvé. Il y a eu une libération de cette force de résurrection qui est déjà au milieu de toi, en toi, par la présence de Dieu. La force du groupe, la sagesse du maître, l'ouverture du rite, la gratitude au pied du Christ, tout cela ne sont que des moyens, des étapes. Jésus n'est pas un maître qui garde l'esclave à ses pieds, mais qui libère l'esclave pour qu'il puisse faire son propre chemin. La puissance de résurrection est en toi, elle est en vous. Ta foi à toi t'a sauvé. Sauvé du néant, sauvé de l'esclavage, de la mauvaise religion, sauvé même de l'adoration perpétuelle du Christ. Notre cheminement nous mène alors au lieu de l'ultime adoration, le culte auquel Dieu prend vraiment plaisir à ce stade. C'est un culte en esprit et en vérité. C'est que nous vivions, c'est que nous avancions librement au milieu de nos frères et sœurs. Notre foi nous a sauvés. Amen. Et je vous propose